Bon, alors, une courte présentation d'abord de David Bannon, pour ceux qui ne le connaissent pas. Alors, David Bannon, vous êtes professeur des universités, directeur du département d'études hébraïques et juives de l'Université de Strasbourg, membre de l'Institut universitaire de France, professeur invité à l'Université hébraïque de Jérusalem, et vous êtes aussi spécialiste de l'interprétation biblique juive et de son histoire, spécialiste de la philosophie de Lévinas et de Leibovitch, notamment. Vous êtes également un acteur du dialogue entre juifs et chrétiens. Auteur de nombreux livres, j'en cite quelques-uns, « La lecture infinie », préfacée par Lévinas, « Le bruissement du texte »,« La lettre et le sens dans l'exégèse juive », la direction de l'ouvrage « Héritage » d'André Néer. Et le dernier en date, qui nous réunit ici aujourd'hui, « L'attente messianique, une infinie patience ». Espoir religieux, mais aussi utopie révolutionnaire, l'attente messianique a eu un rôle important dans l'histoire des Juifs. Cette attente messianique a apporté consolation en des temps de détresse du peuple juif et elle a aussi mobilisé des forces dans des aventures destinées à ébranler le cours des choses. On voit qu'elle peut être religieuse et politique, cette attente messianique. Le point commun à toutes les formes qu'a pu prendre le messianisme est cependant l'espérance. Il faut cependant rappeler qu'à l'époque du premier temple de Jérusalem, le judaïsme n'était pas une religion messianique et le terme de Machiav n'avait pas la connotation qu'il prendra par la suite. Élément décisif dans la compréhension juive de l'histoire, l'attente messianique a connu au cours des temps les expressions les plus diverses. David Bannon, vous étudiez dans votre livre les changements profonds que cette notion a subis. Comment ce concept de messianisme a-t-il pris corps? Et cet espoir messianique n'est-il pas le fruit de circonstances historiques particulièrement difficiles qu'a connu le peuple juif?
Oui, il faut dire que le messianisme naît, N-A-I-T, souvent sur fond de catastrophes historiques. Mais il a été préparé en amont par les prophètes et les prophéties qui, elles, imaginaient une utopie d'abord d'un monde sans guerre, d'un monde où la violence historique et les conflits historiques sont évacués, d'un monde où on pouvait vivre ensemble, en bonne intelligence, et dans la paix. Et plus que cela, un monde qui serait habité dans l'abondance, et cette abondance permet justement de partager les fruits du monde. Ça, c'est un des objectifs du messianisme tel qu'il est décrit chez les prophètes, notamment en tout cas chez Isaïe. Mais il y a un autre pan, c'est que la société messianique est une société qui est une société de justice, c'est-à-dire une société d'où toutes les injustices seront extirpées, puisque le rôle du Messie, c'est justement d'établir une société où la justice sera reine. Une justice au point qu'on n'ait plus besoin d'avocat. voilà, disons, l'arrière-fond qu'on trouve chez les prophètes, bien entendu, avec les catastrophes historiques, et notamment l'exil, la déportation et la dispersion du peuple d'Israël, eh bien, ces notions ont pris une importance très, très grande dans l'histoire, parce qu'il fallait insuffler au peuple une espérance. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure.
Et quelles sont alors les grandes figures de ce messianisme?
Alors,
ou de l'idée de messianisme?
Oui, il faut justement séparer les figures messianiques, voilà, elles-mêmes des penseurs qui ont réfléchi à l'idée messianique et à l'histoire du messianisme. D'abord, là aussi, il faudrait peut-être apporter une précision. La précision, c'est que, bien entendu, les prophètes parlaient d'une personne. Le Messie était une personne qui était ointe par l'huile d'onction. Donc, dans la tradition juive, il n'y a pas de Messie autoproclamé. Il y a un Messie qui est oint et qui est oint par le prophète. Mais le Messie et le roi étaient presque des figures qui étaient superposées l'une à l'autre. Mais le Messie, et c'est d'ailleurs de là que vient le terme Christ, c'est-à-dire celui qui est oint, c'était une figure qui est décrite à la fois chez les prophètes et à la fois reprise chez les penseurs, mais à partir d'un moment, et je pense qu'on peut le situer dans l'histoire, ce moment-là, c'est l'expulsion des Juifs d'Espagne. À partir de ce moment-là, on balance de la figure du Messie vers un temps messianique. Et c'est parce qu'il fallait à ce moment-là remédier au traumatisme que l'expulsion des Juifs d'Espagne avait créé chez les expulsés d'Espagne. Et ce travail-là a été fait par un grand maître, un grand penseur qui s'appelle Isaac Abravanel. Isaac Abravanel a fait un travail, il a écrit 3 ouvrages sur le messianisme, dont d'ailleurs un ouvrage où il se démarque du messianisme chrétien et du messie chrétien en disant que puisque le messie doit résoudre les conflits qu'il y a dans le monde et que ça n'a pas été fait même en son temps déjà, le Christ n'est pas pour les juifs, le Christ n'est pas le messie. Avant lui, bien entendu, il y a eu notamment la grande figure de Maïmonide. Et Maïmonide traite dans la dernière partie de son code de loi, il traite des règles des rois et de leur guerre. Et à la fin, dans les tout derniers chapitres, le 11e et le 12e chapitre du code des lois, il parle justement de la figure messianique et des temps messianiques. Et c'est intéressant de voir que, pour lui, il définit les temps messianiques de 2 manières. La première, c'est qu'une nation ne dominera plus une autre nation. Et la deuxième chose, c'est que les étudiants pourront étudier sans avoir de problème économique. C'est extraordinaire. Voilà comment Maïmonide, bien entendu, après cela, on va entrer avec la Renaissance et avec la période moderne dans une autre manière de voir le Messie.
Et c'est les utopies, là, on voit, il y a aussi le rapport à la terre, terre d'Israël, qui est absolument essentiel. Et quelles sont les différentes utopies, précisément, qui sont véhiculées par l'idée messianique ? Et alors, la façon dont elles évoluent aussi au fil du temps.
Alors, j'ai déjà évoqué la paix, la paix entre les nations, la paix au sein de la société, et certains même disent qu'il va y avoir une mutation dans la création, c'est-à-dire qu'il y aura une paix entre les espèces, à la fois les espèces animales et les espèces animales et l'humain. Là, on a la très belle métaphore d'Isaïe, que le loup va paître avec l'agneau, etc., etc. Et un enfant va conduire, en tout cas, tout ce troupeau un peu hétéroclite. Ça, c'est déjà une vision. Certains disent qu'il va y avoir une mutation au sein de la nature humaine même, au point que le mal va être extirpé de l'homme. Mais là, il y a des divergences entre les penseurs. Maïmonide dit non, le monde continuera à suivre son cours naturel, et il y aura des pauvres et des riches, il y aura des intelligents et des, non, des médiocres, il y aura des grands et des petits, il y aura de l'injustice, mais le Messie doit, ou les temps messianiques doivent essayer de mettre en harmonie tout cela, et la seule chose, encore une fois, chez Maïmonide, c'est que l'humanité entière sera tournée vers la connaissance. Là, on voit bien la filiation de Maïmonide à la philosophie grecque, donc la contemplation. Mais ici, il s'agit de la connaissance de Dieu. Et la connaissance de Dieu selon les facultés de chaque être humain. C'est-à-dire se livrer à la connaissance, se livrer à l'étude, parce que justement le messianisme va dégager un temps de loisir qu'il faudra consacrer à l'étude. Et on voit bien que cette notion de messianisme chez Maïmonide est une notion qui est très moderne, puisque justement les sociologues qui ont pensé la société de loisir disent que bien dégager les loisirs, c'est dégager un temps de loisir, c'est dégager un moment pour une formation continue de l'être humain.
Et quid des autres nations avec le messianisme? Il y a le peuple juif et les autres peuples. Que deviennent-ils?
Alors, là aussi, nous avons des pistes chez les prophètes, et je vais vous les donner, en tout cas ces pistes chez les prophètes. D'après Maïmonide, mais déjà chez les prophètes, on voit que vers la fin des temps, les nations vont se liguer contre Israël et vont essayer de prendre Jérusalem.
Les guerres et de Magog et de Gog.
C'est les guerres de Gog et Magog, exactement. C'est-à-dire une période qui est une période de bouleversement extraordinaire dans les nations et dans la société tout entière. Et dans la tradition juive, nous avons non pas un Messie, mais deux Messies. Un Messie fils de Joseph et un Messie fils de David. Le Messie fils de Joseph est le Messie guerrier qui, lui, va essayer de combattre ces nations liguées qui viennent contester la souveraineté d'Israël sur sa terre. Et il va mourir et il va laisser la place à un Messie qui, lui, n'est pas guerrier, qui, lui, va convaincre les nations qu'il vaut mieux, justement, instaurer une paix entre toutes les nations, et le Messie serait, lui, la personne qui donnerait des conseils pour garder cet état pacifique entre toutes les nations du monde. Parce que dans le judaïsme, on ne peut pas se sauver seul. Il est impossible, impossible de savoir que dans telle partie du monde, on vit en paix et on mange à sa faim, et ailleurs, non. Donc, c'est pourquoi la vision messianique juive est une vision qui est universelle. Et effectivement, si les objectifs du messianisme, c'est la paix et la justice, eh bien, on est obligé, en tout cas, de les voir dans leur dimension universelle, sinon ce n'est pas une paix et sinon ce n'est pas une justice.
L'attente messianique, elle est infinie. C'est une infinie patience. Alors ça nous interpelle. Il y a un rapport au temps. Dans le judaïsme, effectivement, le monde est créé. C'est-à-dire, contrairement à l'idée platonicienne d'un temps qui va se dérouler de façon infinie, dans le judaïsme, il y a un début, et s'il y a un début, il y a donc forcément une fin. La création est inachevée et elle doit être parachevée par l'homme. Mmh. C'est-à-dire, c'est tout le concept de perfectibilité de l'humain qui est cher aux Juifs de tous les temps. L'homme est perfectible. Il y a donc une attente dynamique. C'est-à-dire, ce n'est pas une attente les bras croisés, dirais-je. C'est une attente dynamique, active. Et c'est comme aussi une perpétuation du désir. Le désir de ce qui manque, mais dont la satisfaction est impossible. Un petit peu comme l'homme qui veut voir Dieu, mais on sait que cela est impossible, car Dieu dit lui-même, l'homme ne peut me voir et vivre. Est-ce que c'est aussi pour ça que cette attente, elle est infinie et elle n'est pas condamnée, dirais-je. Elle n'est pas condamnée, mais expliquez-nous pourquoi cette attente est infinie et pourquoi elle se conjugue toujours au futur. Pourquoi l'idée de Messie se conjugue toujours au futur et jamais au présent.
Alors, vous l'avez dit, je pense que pour comprendre cette question, qui est une question complexe, mais importante, je crois qu'il faut partir de la Genèse de Bereshit, c'est-à-dire du début, de l'origine, telle qu'on la trouve exposée et dans le récit de la création qui ouvre la Bible hébraïque. S'il y a un début, donc on tend vers quelque chose. On n'est pas ici dans la conception grecque du temps, qui est une conception cyclique. On est ici dans un temps qui a été déroulé, qui a un sens et qui va vers un but, qui va vers une fin. C'est-à-dire que le futur, l'avenir est extrêmement important. Alors, bien entendu, pour aller vers l'avenir, on s'adosse au passé. Mais si on reste dans le passé, alors on tombe dans la conception grecque du temps, et notamment en tout cas la conception aristotélicienne du temps, qui est le milieu de la dégradation, le milieu de la dégénérescence, la vieillesse et la mort. Or, si on prend le temps à partir de l'avenir, alors à ce moment-là, le temps n'est plus le milieu de la dégénérescence, de la vieillesse et de la mort. Le temps est comme une fiancée. C'est comme ça que la tradition juive l'explique. On nous dit il ne faut pas comprendre le temps comme un héritage, comme quelque chose qu'on reçoit d'une personne décédée, comme quelque chose qui nous vient du passé, mais il faut le voir comme une fiancée. Qu'est-ce que ça veut dire comme une fiancée? Eh bien, ça veut dire comme une ère de joie, de découverte. Ça veut dire que l'avenir est imprévisible. Le temps est imprévisible, plein d'imprévus et plein aussi de découvertes nouvelles. C'est comme ça que nous, on doit voir le temps. Et donc, ce temps-là, c'est une tension, parce que le messianisme est une tension entre la manière dont le monde et dans la société est vécu réellement, et ce qu'on voudrait qu'elle soit. Donc il y a une tension dans le temps, et cette tension étire le temps. C'est pourquoi j'appelle ça une infinie patience, parce que si le messianisme est aspiration à l'impossible, si le messianisme est exigence d'absolu, alors tout Messie qui vient est inévitablement un faux Messie. Parce qu'il arrête le temps. Et donc, il faut garder, ce que nous dit le Talmud, c'est que il faut garder cette notion d'attente, mais c'est une notion d'attente, comme vous l'avez dit, une attente active, c'est pas une attente passive, c'est une attente où on continue à transformer le monde, on continue à le parachever, puisque ce monde a été créé en 6 jours. Le 7e jour, Dieu s'est reposé et s'est retiré du monde et il a livré le monde à l'être humain en lui donnant une responsabilité immense puisqu'il s'est retiré, la responsabilité de le conduire ou bien à cette société de paix ou bien à la destruction la plus totale. Et donc la responsabilité de l'homme est très 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 grande. L'homme a été le dernier créé, mais le premier responsable. Il doit rendre des comptes, et il doit rendre des comptes, notamment s'il mène pas ce monde et cette création vers son épanouissement et vers la fin. Voilà donc la conception du temps dans la tradition juive.
Et cette infinie patience, donc, plutôt que la folle impatience. Alors, dans votre livre, on est frappé par le courage avec lequel vous abordez un faux messie, notamment, le rabbi de Lubavitch. Et vous avez un jugement très sévère et très courageux sur la réception de ce messie par ses disciples et la façon, effectivement, dont il est, dont ça a été plus ou moins toléré dans le judaïsme. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de ce rabbi de Lubavitch ?
Oui. Il y a, je pense que c'était dans les années 90, fin des années 90, on a entendu, vous comme moi, et comme beaucoup d'autres personnes, que on déclarait un peu partout que un rabbi chassidique qui avait énormément d'adeptes, notamment en tout cas aux États-Unis, mais un peu partout dans le monde, se serait déclaré messie ou on l'aurait déclaré messie. Et on était dans l'expectative au début. Il faut dire que on attendait, ou en tout cas moi, d'autres personnes peut-être, nous attendions des réactions des responsables des communautés juives, mais peut-être que elles aussi, ou eux aussi, pardon, les responsables de ces communautés étaient aussi dans l'expectative, ne savaient pas comment résoudre ce problème. Il faut dire que dans l'histoire du peuple d'Israël, nous avons connu pas mal de faux messies, et ces faux messies ont toujours l'aventure, disons, de ces faux messies, c'est toujours terminé en catastrophe. Et donc, on était très très prudent avec
et en division du peuple juif.
Et en division du peuple juif, notamment la première, oui. On était donc très prudent. On ne savait pas comment réagir. Et puis voilà que cet homme qui était déjà assez vieux, je pense que c'était une année ou 2 années après, meurt. Alors on s'est dit, bon, le problème maintenant est résolu. Mais on nous dit, non, attendez, vous allez voir, il va ressusciter et il va revenir et vous allez voir, il va résoudre les problèmes. Soyez juste un tout petit peu patient. Et alors à ce moment-là, il y a quelques personnes qui ont été très courageuses et qui ont dit, là, il faut s'arrêter. Mais on voit que ça ne s'est pas arrêté. Jusqu'à maintenant, si vous allez en Israël, vous verrez encore des placards publicitaires immenses, soit sur les bus, soit dans les rues, en disant, voilà, le rabbi de Lubavitch, c'est le Messie, et puis il va arriver bientôt, ou bien si vous voulez vous brancher sur les temps messianiques. Alors, on nous donne une adresse, on nous donne un lien informatique pour pouvoir justement se brancher là-dessus. Donc voilà, si vous voulez un peu très rapidement brosser cette histoire-là, il y a eu, disons, deux personnes qui ont réagi très fortement. Un professeur d'université aux États-Unis qui s'appelle David Berger, et qui, lui, a essayé de faire bouger l'establishment rabbinique pour qu'il prenne position. Il n'a pas beaucoup réussi et il a écrit un livre en disant que il avait de très très bonnes relations avec ce mouvement chassidique, mais à partir du moment où ils ont déclaré leur rabbi comme messie, eh bien, il s'est posé beaucoup de questions et il s'est mis à lutter, et notamment, non pas contre eux, mais à essayer de faire bouger l'establishment rabbinique pour qu'il condamne cet homme-là. Il n'a pas réussi et il en a fait finalement un livre, le livre de son combat. Et il y avait un autre qui, lui, a lutté contre cette idée d'un messie à la fois vivant et contemporain et d'un messie mort et devant revenir, devant ressusciter. C'était l'ancien grand rabbin séfarade d'Israël, le rabbi Ovadia Yosef, qui lui a lutté contre cette prétention, disons, du rabbi de Lubavitch au Messie. Les autres ont attendu prudemment, sans réagir. Peut-être ceux qui ont réagi ici ou là, à cette période-là, c'était quelques intellectuels qui ont été interpellés pour prendre position dans cette question-là. Et il se trouve que j'étais un parmi eux, et voilà. Il y a un petit chapitre dans mon livre qui parle de toute cette histoire.
Bon, très courageux, c'est vrai. Mais maintenant, on peut peut-être comprendre cette position des grands rabbins d'Israël par le fait de ne pas permettre peut-être la création d'une nouvelle religion. Parce qu'à la limite, c'est ce qui aurait pu se passer si on les avait déclarés hérétiques, les Lubavitch.
Oui, alors, c'est vrai que ça, c'est quelque chose de très remarquable dans cette histoire du messianisme du rabbi de Lubavitch. Généralement, dans l'histoire de notre peuple, il y avait un homme comme Shabbatai Tzvi, et même bien avant Shabbatai Tzvi, les premiers chrétiens qui, eux, croyaient que Jésus était le Messie, petit à petit se sont séparés de la religion juive. Et avec le Messie qui s'appelle Shabbatai Tzvi, lui, lorsqu'il a été pour prendre ce qu'il appelle la couronne du sultan en Turquie et pour lui demander de lui restituer le territoire d'Israël pour qu'Israël exerce sa souveraineté, on l'a laissé faire pendant un mois. Il avait une cour autour de lui et puis ensuite il a été arrêté et mis en prison. Et dans cette prison, il a essayé de continuer. Il a continué, comme nous le raconte en tout cas le grand historien de l'idée messianique, Gershom Scholem, il a continué même à recevoir des gens en soudoyant les gardiens de la prison. Mais à un moment donné, on lui a mis une sorte de contrat entre les mains en lui disant, voilà, ou bien vous vous convertissez à l'islam, ou bien vous êtes, vous montez sur l'échafaud. Alors il a dit, je me convertis à l'islam. Ce qui est remarquable, c'est que ses disciples, et notamment en tout cas Nathan de Gaza, qui était celui qui l'a déclaré Messie, va élaborer une théologie en disant Shabbatai Tzvi s'est converti à l'islam, mais c'est une conversion qui est seulement une conversion de façade, puisque c'est seulement déguisé en musulman qui va pouvoir entrer dans les entrailles de la terre et libérer ce qu'on appelle dans la doctrine kabbalistique les étincelles de sainteté qui sont emprisonnées dans les écorces. Et donc, il y a eu à un moment donné, disons, une secte qui était la secte des croyants, c'est comme ça qu'on les appelait, des croyants en Shabbatai Tzvi. Et aujourd'hui, probablement, en tout cas, ceux qui ont voulu faire la même chose que lui et qui ont adhéré à cette secte, il y a encore quelques adeptes de cette secte, elle s'appelle la secte des Dunmé, ceux qui ont essayé de faire la même chose que Shabbatai Tzvi, de s'être converti à l'islam. Donc c'est vrai qu'il y a eu à la fois avec l'aventure avec l'apparition de Jésus et à la fois avec l'aventure de Shabbatai Tzvi, il y a eu un schisme, une division à l'intérieur du peuple. Là, on croyait, avec le rabbi de Lubavitch, on croyait qu'il allait avoir aussi une division au sein du peuple. On croyait qu'on allait rejeter cette secte. Mais il se trouve qu'à l'intérieur du mouvement Lubavitch, il y avait les croyants en la messianité du rabbi et les non-croyants en la messianité du rabbi. Mais les uns et les autres ont continué à se conduire comme vous et moi en tant que juifs.
Oui,
c'est-à-dire, ça veut dire qu'il y avait là, en tout cas, ça, on reste perplexe, il n'y a jamais eu une velléité de quitter le peuple d'Israël ou de quitter le peuple juif chez les Lubavitch. Voilà.
Un dernier mot. Donc, on a bien compris une infinie patience plutôt qu'une folle impatience. Il y a même des rabbins qui disent « j'espère la venue du Messie, mais pas de mon vivant. »
« Je ne veux pas le voir. »
« Je ne veux pas le voir. » Demain.
Parce qu'il va y avoir, des bouleversements tellement grands, des changements tellement grands. Ça va être précédé de cataclysmes. Alors, je ne sais pas si c'est des cataclysmes naturels, mais en tout cas, dans la société, de tensions tellement fortes qu'il dit qu'il vienne et que je ne le vois pas. Voilà. Mais je voudrais vous lire justement au sujet de cette notion de patience, je voudrais vous lire une citation d'un de mes maîtres, d'Emmanuel Lévinas. Mais avant de vous lire cette citation, je voudrais juste la mettre en contexte. Lévinas va parler ici de la sortie d'Égypte. Et donc, si vous connaissez un peu le récit biblique, vous savez que dans l'alliance entre les morceaux, Dieu annonce à Abraham que sa descendance va être esclave en Égypte, asservie par les Égyptiens pendant 400 ans. En fait, l'exil commence à partir de la naissance d'Isaac, puisque il s'agit de la descendance d'Abraham, et la descendance d'Abraham, c'est Isaac, et donc le peuple d'Israël est en fait resté en esclavage 210 ans. c'était le compute qui était accepté, connu par l'ensemble du peuple d'Israël, sauf d'une seule tribu, qui est la tribu éphraïmite, d'Éphraïm. Et elle voulait forcer ce que j'appelle, moi, le rideau de fer égyptien et sortir avant le temps prévu, c'est-à-dire avant que les 210 ans soient révolus. Et alors, voilà ce que dit Lévinas à ce sujet-là. Hâter la fin est un danger majeur dont le Talmud entrevoit la perfide tentation. Les Éphraïmides en Égypte auraient voulu se libérer sans attendre Moïse et sa loi. Partis vers la terre promise, ils s'y seraient heurtés aux Philistins et furent exterminés. Le Talmud n'enseigne ici ni la superstition des heures fastes et néfastes, ni la doctrine hölderlinienne de la maturation du temps, ni la stérilité, ni la stérile passivité de la piété dite orthodoxe qui prône un messie miraculeux, mais paralyse les efforts qu'exigent nos malheurs et notre indignité. La bonne nouvelle de l'échec, de la souffrance pour la souffrance, de la résignation, n'est pas très talmudique. Le livre nous raconte ici une périlleuse impatience qui est de toutes les heures. Elle peut être belle. Dans sa jeunesse, fut-il l'instant ultime de l'histoire, l'intervalle qui nous permet de distinguer modèle et œuvre. Sachons garder distance dans nos engagements indispensables en face de ce qui se présente, s'impose, nous presse comme un glorieux aboutissement. Ce n'est pas arrivé. Patience. Voilà ce que dit Lévinas au sujet des textes messianiques talmudiques qu'il a interprété. On sait que cette tribu d'Éphraïm a été rattrapée par les Égyptiens, a été exterminée, et dans la tradition juive, pour ne pas les laisser en dehors de la réalisation des idées messianiques, on dit que ce sont les ossements de cette tribu-là qu'Ézéchiel le prophète a ressuscité dans la belle métaphore qu'il donne justement de la vallée des ossements desséchés.
Je vous remercie. Merci Je remercie beaucoup. David Bannon d'être venu nous présenter son livre, L'attente messianique, une infinie patience. Merci à vous tous.